Allez, on revient alors.
Voilà, ils ont fait de la merde, comme ils ont dit.
Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, et ben, je suis pas venu aujourd'hui.
Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'encre du moustoir.
D'Archeville.
Et but d'Archeville.
Attention à cette remise! Regardez! La but exceptionnelle! De Donnarumma!
Un dégagement! Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain!
Le but de Lorient de Kevin Monnet-Paclum!
Pour le football club de Lorient! Va en poisson!
Avec deux Lorient qui est absolument seul! Attention à Brielle! Et l'égalisation
de Lorient face à Mamadou Seko!
Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos! Gamero! Il y en a 3 buts à 2!
Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Maxi Duarez! Le voilà, le ballon de l'Ariane Maxi Duarez face à Tchernic qui va trouver le troisième but des Lorientais, Arnold de Fuemba qui permet à Lorient.
Le moine, pourquoi ne pas tenter sa chance?
Et Lorient qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozog dans la surface, frappe de Bozog et deuxième but!
Sorte avec Bonso, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, deuxième but, c'est parfait, pim pam poum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois qui conclut cette action, c'est facile le football quand on joue comme ça.
Bonjour à tous, bienvenue dans la taverne, ravi de vous retrouver après une nouvelle victoire du FC Lorient, la troisième en trois matchs, mais aujourd'hui, on va pas parler de ça. Aujourd'hui, je suis avec Pierrot et Raph, et puis j'allais faire une longue introduction de notre invité du jour. Je me contenterai de dire 317 matchs, 0 but. C'est pas une stat extraordinaire pour un attaquant, mais ça tombe bien, il est gardien. C'est Fabien Audard, la légende du FC Lorient. Bonjour Fabien.
Bonjour à tous. Merci pour cette présentation, la légende, c'est sympa.
Ah ben, quand on a le record du nombre de matchs sous maillot du FC Lorient, on rentre dans une catégorie quand même, non?
Ah ouais, sans doute, oui, c'est vrai que c'est un peu ma fierté, donc c'est vrai que je suis content de ça, parce que c'est pour moi une référence, c'est en tout cas le modèle que j'ai toujours voulu représenter, et j'ai pas gagné de trophée, j'ai pas gagné beaucoup de choses sur le plan national, sur le plan international, mais par contre ça reste ma fierté et en tout cas la chose que je mets en valeur à chaque fois.
Du coup, ce que je te propose, donc déjà merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'être avec nous, hein, ça nous fait, tu peux imaginer, énormément plaisir. Quand on a lancé le podcast il y a quelques années, on avait une checklist des gens qu'on voudrait avoir, qu'on aurait voulu avoir. La checklist se remplit petit à petit et aujourd'hui on coche une nouvelle case, donc on est vraiment très très content. Raph et Pierrot, pardon, j'ai dit que vous étiez avec moi, ce que je vous propose c'est de commencer par le début. Comment est-ce que tu es arrivé au foot et comment est-ce que tu es arrivé gardien de but surtout?
Bon, alors là, ça c'est un parcours tout à fait classique. J'ai suivi mon frère, j'ai commencé à être sur les terrains de football comme lui, et puis voilà, tout naturellement, j'ai commencé à jouer moi aussi de mon côté. Et après, pourquoi gardien? C'est le hasard des choses a fait que mon voisin un jour, il est pas venu, il s'est fait punir, et du coup, il a fallu un qui, comme il s'est fait punir avec moi, il a fallu un qui prenne sa place, et bon, il m'a vite fléché. C'était après, ça s'est fait comme ça. J'y suis retourné joueur de temps en temps, mais ouais, j'ai vu que j'avais peut-être un potentiel peut-être supérieur en tant que gardien, donc j'ai continué là.
Et dès les catégories jeunes, t'es tout de suite repéré, où on se dit, tiens, lui, le petit, là, il a du potentiel, ou ça se déclare plus tard?
Alors, le petit, c'était pas le mot qu'on utilisait pour moi, généralement. Non, parce que moi, je suis apparu très tard dans le foot, à l'âge de 18 ans. Okay. Voilà, j'ai pas eu de cursus centre de formation. C'est quelque chose qui m'intéressait pas forcément. J'avais toujours la pression des parents pour continuer les études. Je l'ai fait. C'était pas mon dada, mais j'ai continué à faire mes études de mon côté. Et voilà, à l'âge de 18 ans, après, j'étais à 17 ans, j'étais à Muret dans un club de national à l'époque. Et je commençais à jouer avec les seniors. Et voilà, c'est là où j'ai commencé à me faire repérer par Toulouse à l'époque, quoi. Et c'est là où je me suis lancé dans ce milieu-là, quoi.
Et donc, quand ils viennent te chercher, c'est pour jouer en quelle catégorie chez eux? Pour aller chez pro directement, non?
Oui, je suis rentré directement dans le avec les pros. Voilà, j'avais 18 ans, j'étais troisième gardien à l'époque. Donc voilà, je pense pas qu'ils avaient misé grand chose sur moi à l'époque. Voilà, ils m'ont donné une chance et puis les stagiaires pro à l'époque, à 17 ans, c'était déjà tard, mais c'était pas non plus extraordinaire à ce moment-là. Quoi, les jeunes, ils rentraient, ils commençaient à jouer à l'âge de 20 ans, hein, 22 ans, hein, entre 20 et pour un gardien encore plus tard. Donc ouais. Voilà, il y avait un petit pari fait et à voir, quoi, en gros.
Et c'est là où tu as appris un peu les fondamentaux, enfin, c'est vraiment là où tu as structuré un peu ta technique au niveau du poste de gardien, enfin, comment ça s'est passé? Parce que j'imagine que tu avais un peu de bagage quand même avant d'arriver dans ce club.
Ah ouais, moi quand je suis arrivé, je m'entraînais trois fois semaine. Je suis arrivé, j'étais petit amateur. Je suis arrivé là et j'ai commencé à me former en tant que voilà, ma technique pure et dure de gardien, je l'ai vraiment acquis à ce moment-là, quoi. Avant, j'avais des compétences, on va dire, physiques, je m'étais fait naturellement, quoi. Et là, j'ai été formaté par mon coach Alain Casanova à l'époque. Voilà. Et pour moi, en termes d'entraînement, c'était ma référence et c'est lui qui m'a tout appris, quoi. En tout cas, en termes de rôle de gardien de but, quoi.
Ok, intéressant. Et la technique derrière, est-ce que tu as senti des paliers aussi au travers des différents clubs que tu as fréquenté? Enfin, la technique ayant évolué, le rôle de gardien aussi, est-ce qu'il y a des choses où tu as plus travaillé à un moment donné dans ta carrière?
Il faut savoir que moi, à cette époque-là, on n'avait pas le jeu au pied. On avait droit à la main tout le temps. C'était le début où on commençait à jouer au pied. Donc, c'était déjà pour. Dans le temps, il a fallu s'adapter. Et moi, j'ai dû m'adapter un peu plus que les autres, d'ailleurs. Mais oui, ma base, c'est Alain Casanova, parce que j'ai appris à Toulouse. Il y avait Teddy Richert à l'époque. Mmh. C'était aussi une référence pour moi et le modèle que j'ai pu suivre pendant des années. Et après. Le gros palier en termes de, je trouve, enfin qui m'a apporté le plus, Jean-Luc Ettori et Flavio Roma à l'époque de Monaco, où voilà, il y a eu encore, à mon sens, un step encore supérieur, quoi.
Et qu'est-ce qui te fait évoluer du coup à Lorient? Enfin, t'arrives, du coup, il y a Stéphane Le Garec dans les cages. Enfin, est-ce qu'il y a une philosophie aussi sur le poste qui est différente à Lorient versus ce que t'as pu avoir à Toulouse et à Monaco?
Non, je crois pas. J'ai pas ressenti sur le rôle de gardien de but à Lorient, j'ai pas ressenti quelque chose de particulier. Après, par contre, en termes de jeu, oui, collectivement, oui, j'ai ressenti une grosse différence, mais sur le rôle de gardien de but, pas tant que ça. Moi, je suis arrivé avec ce que j'avais appris à Toulouse et je l'ai mis en place à Lorient, mais pas plus, quoi.
D'ailleurs, sur ton arrivée à Lorient, t'arrives en prêt la première saison?
Ah non.
Non, Charles.
Non, il y avait une saison où tu es prêté à Lorient?
Non, ouais, il est reprêté.
Après Toulouse, je pars à Bastia. Ouais. Le temps m'a dit qu'il assure à Toulouse. Et du coup, je pars à Bastia avec dans les bagages de Robert Nouzaré.
Okay.
Voilà, pour la petite anecdote. On part à plusieurs anciens de Toulouse. On était quatre ou cinq. Et on part à Bastia avec Robert Nouzaré, qui était entraîneur de Toulouse à l'époque. Et lui avait signé à Bastia, donc on le suit. Et moi, je vis une année un peu compliquée à Bastia. Je ne joue pas du tout. Je fais une année là-bas et je cherche un point de chute parce que je sais que.
Qui est-ce qui est numéro 1 à Bastia à l'époque? C'est Boom Nigel déjà ou... Enfin encore
non, c'était Nicolas Pento.
D'accord, ah, oui. Ouais, belle référence aussi.
Ouais, en fait, moi j'arrive et il était censé s'en aller à Paris à l'époque. Le transfert capote en fin de mercato et du coup il se retrouve à rester à Bastia et c'est pour ça que moi je joue pas, quoi, du coup. Entre autres, hein, parce que.
Ouais, ouais.
Sans doute, mais. Mais voilà, du coup, il reste une année de plus et moi, je suis barré complètement là-bas et bon, il fallait trouver un échappatoire.
Et donc, c'est Lorient.
Et c'est plutôt un bel échappatoire, c'est à Lorient que j'atterris. Hein.
Donc, c'est concours de circonstances ou tu avais le choix entre plusieurs clubs et tu as choisi Lorient pour une raison en particulier?
Tu sais, quand on a 23 ans et qu'on n'a pas joué pendant un an, on prend ce qu'il y a à prendre. J'avais une autre option en Écosse à l'époque parce que j'avais fait un essai qui s'était très bien passé et j'avais failli signer. En fait, voilà, c'était soit je signais en Écosse, soit Lorient me proposait de venir à Lorient. J'avoue que j'ai choisi un peu la facilité et vu l'état de mon anglais, je crois que c'était préférable pour tout le monde que je reste en France.
Donc Toulouse, Bastia, Lorient. Bon, déjà, le premier changement, il doit être climatique. On est tous bretons, donc on assume, hein, mais ça doit faire bizarre. Et ça se passe comment tes découvertes du FC Lorient, du style de l'entraîneur, etc., etc.
La première découverte, c'est avec Ramon Ramirez qui vient me chercher. Ça m'a toujours marqué. C'était pendant la période du festival. Donc, quand on arrive un premier jour à Lorient et qu'on est en période de festival, autant te dire que ça fait un peu bizarre. Mais voilà, bon, moi, j'étais acclimaté au truc et moi, ça m'a bien plu. Et après, bon, après voilà, l'acclimatation au niveau sportif, c'était pas Christian à l'époque, donc c'était un peu particulier. Et, c'était Yvon Pouliquen. Mais voilà, moi, ça s'est fait naturellellement. Je suis rentré là-dedans et puis j'avais faim, quoi. Donc, il fallait démontrer qu'on était là. Et Stéphane Le Garrigue jouait déjà à l'époque. Donc j'ai patienté un petit peu et puis après bon, ma chance est venue et je l'ai saisi quoi.
Il y a un prêt à Monaco très tôt. Ou alors j'ai ta fiche Wikipédia complètement fausse hein, mais il y a un prêt à Monaco dans l'histoire, non?
Ah c'est ça ouais.
Oui, c'est ça.
Ouais. Alors les dates c'est pareil, c'est au bout de 2 ans, je fais 2 ans ici.
Ouais.
Il y a la première année avec Christian, la première année avec Yvon et la deuxième avec Christian. Mm-hmm. Moi je fais plutôt une bonne saison et j'ai l'opportunité d'aller à Monaco en prêt. Je crois que c'est bien la première fois que Lorient prêtait un joueur à Monaco. C'était plutôt un sens inverse normalement. Mais voilà, après c'était une option. Moi, je savais pas trop où j'allais là-bas non plus. J'étais deuxième gardien. C'est une super expérience parce que j'ai touché le haut niveau. Pas que j'ai pas touché le haut niveau avec Lorient, mais le très haut niveau avec Monaco, voilà, c'était moi la Ligue des Champions. J'ai connu que là-bas et c'était c'est un autre monde et j'ai pu dire que j'ai fait des matchs de Ligue des Champions. En tout cas, j'y ai participé.
Tu rentres en Ligue des Champions?
Non.
Non. Sur le banc.
J'ai fait 10 matchs championnat, Coupe de France. J'ai fait Coupe de France là-bas et Coupe de Ligue à l'époque. Ouais. On fait 2 fois demi-finale, donc c'était plutôt bien. Mais voilà, j'ai pas pareil, pas de trophée.
Et donc après, voilà, la grande époque, c'est quand même de ta carrière. En tout cas, c'est le FC Lorient avec Christian Gourcuff. Qu'est-ce que c'est le rôle du gardien dans le schéma de Christian Gourcuff?
C'est manger des pralines de Patrick Lostis toute la journée. Ça, c'est...
Ouais, aussi, mais non, le rôle d'un gardien de but, Christian, c'est d'être très haut, d'anticiper, de... Il n'y a pas un rôle particulier avec Christian, le rôle de gardien. Il s'est beaucoup attaché au 4-4-2 et il n'a jamais trop parlé du gardien derrière.
Et c'est pour ça que je te pose la question.
Mais voilà, non, globalement, il n'y avait pas un rôle particulier. Après, c'est vrai qu'il nous demandait d'être. Moi, il me demandait en tout cas d'être présent sur le niveau aérien, sur les jeux aériens, mais il n'y avait pas un rôle particulier à flécher là-dedans, quoi.
D'ailleurs, c'est une de tes grosses qualités là-dessus, le fait de te faire respecter dans la surface de réparation sur corner, coup franc, etc. C'était une de tes forces, non?
Oui, clairement. Je pense que c'était, en tout cas, c'est ce que j'aimais le plus. Parce que, après, on s'adapte aussi à ses qualités. Moi, j'ai toujours dit que le roi du gardien, il s'adapte à ses qualités. J'étais pas le plus rapide sur la ligne. J'ai essayé de trouver. Une autre façon d'aborder ce rôle-là. Et je trouve que, voilà, quand j'étais grand, j'aimais ça, j'aimais aller au contact. Et après, on s'adapte. Moi, le rôle de gardien, je l'ai toujours vu en adaptation avec le jeu, avec tes qualités et ce que tu es capable de faire. Moi, je n'étais pas le meilleur sur la ligne, je l'ai toujours su. En tout cas, j'en avais conscience. Donc, du coup, je me suis adapté et j'ai essayé d'aller éviter d'avoir à faire des arrêts sur la ligne. Donc, c'est ce que j'ai mis en place, quoi.
Est-ce que tout au long de tes années, le coach a essayé de te mettre de la concurrence poste de numéro 1? Ou tu étais pendant toute ta carrière à Lorient, il avait 100% confiance en toi?
Je crois pas. Je crois que tant que j'ai donné satisfaction, il m'a fait relativement confiance. Il m'a fait confiance, Christian. On avait cette relation-là tous les deux. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas pensé à me changer par quelqu'un d'autre. Mais bon, il n'a jamais fait et j'ai jamais senti, tant que j'étais performant, une pression supplémentaire. Il était toujours parti dans l'idée qu'il y avait un gardien numéro 1, un gardien numéro 2. Et on est toujours parti sur ça. Après, je pense que si j'avais pas été bon, il m'aurait sorti à tout moment. Mais voilà, moi, j'en avais une relation plutôt saine de ce côté-là.
Et pas de période un petit peu compliquée pour toi au club, d'un point de vue soit sportif ou personnel, toujours plutôt conquérant.
Bon, les seules périodes un peu compliquées que j'ai pu ressentir, c'était les blessures, quoi. C'était quand on était blessé et que et qu'il y avait des gardiens qui ont fait aussi leur rôle. Je pense à Rémy Rioux ou Benjamin quand il a eu à jouer. Voilà. Après,
il y avait Capone aussi, peut-être un petit peu.
Il y avait Lio, mais le pauvre Lio, à chaque fois qu'il jouait, ça se passait pas très bien. Alors que c'était.
Ouais. Bah, c'est pour ça que Le Pen finit au cage, je crois, si je dis pas de bêtises.
Typiquement, voilà, c'était Lio, quoi. Enfin, c'est un gardien qui avait d'énormes qualités et à chaque fois qu'il jouait, le pauvre, ça se passait pas très bien. Ou il se blessait et à chaque fois qu'il avait l'opportunité de jouer, il était jamais là, quoi. Donc, voilà, après, moi, j'adorais Lio et c'est vrai que ça s'est toujours bien passé avec lui et on a toujours eu un rapport sympa et c'est pour ça aussi que le rapport entre le 1 et le 2, il est super important et, et moi, j'avais un super rapport avec Lio et ça, c'est les années où ça s'est bien passé avec lui, il n'y a pas eu de souci, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a des moments où, quand il y a eu des blessures, des moments où j'ai un peu moins joué, où il y a eu des temps où j'ai laissé la place, ben, on a toujours ce doute-là de savoir si on va récupérer sa place. L'épisode Rémy Rioux, n'a pas forcément été une situation facile à vivre. Ouais.
Et tu parlais de, là on mentionnait à l'instant l'épisode où Ulrich Le Pen prend le poste dans les buts. Comment tu vis ce moment-là, toi? Tu vois le match, je suppose?
Pas beaucoup parce
t'en gardes quoi comme souvenir de ce match-là?
Moi, je garde un super souvenir parce que moi je me blesse, mais voilà, j'en garde un souvenir parce que l'histoire elle était belle. Et puis Lulu, c'était mon pote, on rigolait tout le temps, on était tout le temps en chambre ensemble. Que ça se passe comme ça pour lui, c'était cool, quoi. Et puis il y avait la victoire à la fin, quoi. Et c'était une victoire importante à l'époque, donc ouais, c'était un plus. Il y avait un contexte extraordinaire.
Joli but de Rafik Saifi.
Ouais, ouais. Et voilà. Et j'en garde un super souvenir malgré tout, mais j'avais pas vu la fin. J'étais resté dans les vestiaires, je pouvais plus marcher, donc j'avais pas vu la fin. Ouais.
Mais ça, c'est pourquoi? Parce qu'il faut, quand faut mettre un joueur de champ dans les buts. C'est quoi le critère? C'est celui qui veut y aller qui s'y colle ou c'est un truc qui est préparé avec des gros guillemets, hein? On sait qu'il y a un mec qui à l'entraînement va faire 2-3 arrêts, ça lui fait plaisir.
Non, Lulu adorait aller dans les buts à la fin des entraînements, mais on n'avait jamais réfléchi à cette situation-là. À l'époque, il y avait deux gardiens, donc ça se passait très rarement et ça se repasse rarement encore depuis. Hein. Non, c'est je ne sais pas pourquoi il a pris les graines, il a été. Souvent, c'est un attaquant parce que ça désorganise un peu moins les systèmes. Mais non, je ne sais pas pourquoi Lulu y avait été.
Bon, on a revu ça. On a revu ça au Moustoir au final avec Sako qui finit dans les cages pour le but de Leland pour sa dernière.
Ouais, c'était le Chrome qui avait pris le rouge, non, c'est ça?
Ouais, exactement.
Le gars du coin.
Dernier match, c'est par contre.
Ouais.
Il a fait Lionel Capone.
Tu vois, je me rappelle de certains matchs quand même, donc c'est pas mal quand même.
Ouais, on rafraîchit la mémoire.
On est ça.
Sur toute ta période au FC Lorient, donc t'es donc évidemment grand fidèle du club, on va pas répéter 20 fois la stat, hein, mais 317 matchs, le record, il a été chatouillé là cette saison. On en parlait un petit peu en off avant l'épisode, il a été chatouillé. Bon, ça durera encore un petit peu a priori, et je sais pas qui est le prochain dans la liste, mais il doit être très loin. T'es pas parti du FC Lorient, alors c'est une question un peu piège, hein, la façon dont je la posais, par amour profond du club ou par manque d'opportunités qui auraient pu t'intéresser?
Je suis parti du club, je sais pas. Les faits ont fait que je me suis pas retrouvé dans ce qu'on m'a proposé,
ouais.
Ça c'est sûr. J'ai pas senti non plus une grosse envie que je reste au club. Pour être honnête. Voilà. Après, j'étais aussi très fatigué du football à cette époque-là. J'avais aussi une grosse envie de couper. La dernière saison, j'avais un rôle de troisième gardien qui me plaisait. Franchement, en toute honnêteté, ça m'allait très très bien. Je pense que j'aurais pu faire encore peut-être même deux, trois ans dans ce rôle-là. Ça ne m'aurait pas dérangé. Après, il s'est trouvé que on ne va pas proposer de ce rôle-là pour bien plus longtemps.
Et c'était quoi ce rôle? Où est-ce que tu arrivais à continuer à t'épanouir? Qu'est-ce que tu faisais? C'était quoi ton influence du coup sur le vestiaire?
Bah, mon rôle, c'était un rôle de troisième gardien vétéran, quoi, en gros, qui est là pour donner des conseils, pour accompagner à l'époque Benjamin, qui était jeune malgré tout, qui sortait de saison qui avait été compliquée en termes de Dijon et tout ça. Moi, j'avais plus non plus une grosse envie de jouer tous les matchs. Faut être clair aussi, j'avais plus cette envie-là. Après, Je me suis plus retrouvé. On avait changé d'entraîneur. C'était Sylvain Ripoll qui avait pris le relais. Voilà. Et puis pour différentes raisons, on s'est pas retrouvé sur les mêmes concepts de jeu ou les mêmes choses. Donc moi, quand je sens que je suis plus à ma place, j'étais en âge de dire j'arrête, quoi. Et c'est ce qui s'est passé.
Et ma question portait en fait sur, c'est hyper intéressant, la question portait aussi sur toute ta période de FC Lorient. T'as dû forcément avoir, t'as été en fin de contrat, etc. T'as été renouvelé, t'as dû avoir des offres. Est-ce qu'il y a des transferts qu'on faillit se faire, des choses où t'as vu des projets qui te plaisaient et ça aurait pu se faire, mais finalement non, du coup.
Ah ouais, non, sur ça, franchement, j'ai jamais tapé à d'autres clubs, j'ai jamais eu envie de partir de Lorient tant que moi j'avais ce que je voulais. Mmh. En gros, sportivement, tant que j'avais un projet de jeu qui m'intéressait, je suis un peu un doux rêveur quand même, moi, en termes de foot. J'aime bien le beau jeu, j'aime bien ce qu'on faisait à Lorient, le collectif, la notion de progrès, sur une saison. Voilà, je suis pas forcément quelqu'un qui est focus sur les trophées, sur la performance, sur le fait de gagner tous les matchs. Voilà, j'aimais cette idée un peu de progression et de contenu dans les matchs, quoi. Donc j'avais pas la volonté farouche de partir de Lorient, donc j'ai jamais tapé à d'autres clubs et mes agents n'ont jamais travaillé en ce sens là non plus, quoi. Mm-hmm. Ça les a pas arrangés d'ailleurs, parce que du coup je suis jamais parti. Mais voilà, le seul projet qui était arrivé à l'époque, c'était un retour à Toulouse où ça a failli se faire, honnêtement. Voilà, mais j'étais trop bien ici, et puis ma vie se calait ici, dans le football et à l'extérieur du football, donc voilà, ça a été vite mis de côté, quoi.
T'as évoqué le terme rêve, à quel moment t'as senti que le FCL touchait à un moment donné à quelque chose d'assez subtil, ou le point d'orgue que t'as pu peut-être connaître vu le nombre d'années que t'as passé au club? Est-ce que tu as cristallisé un moment d'une saison ou une saison où tu t'es dit ouais, là franchement ça envoie quand même?
Bah, toutes les saisons, honnêtement, parce que toutes les saisons on avait on partait jamais avec les pronostics en notre faveur, et chaque saison on arrivait à sortir des joueurs, à être bon en début de saison, à progresser tout au long de l'année. Et vraiment, moi j'aime ça, j'ai parti des débuts de saison avec Christian où on s'est sans doute pris la tête, parce que on disait putain, mais où on va encore cette année, on part avec un effectif, il est limite, je sais pas où tu vas là en gros, au final l'équipe progressait de mois en mois, et pour finir sur devant deux joueurs ou sur un classement qui était tout à fait logique, et en fait où on prenait du plaisir en plus, quoi. Donc moi ça c'est ça que je recherchais, quoi, et je continue de rechercher ça dans le football.
Je me permets juste d'intervenir. T'as fait une sorte de parole rapportée, comme si tu t'exprimais à Christian Gourcuff en direct. Enfin, du coup, j'imagine que tu faisais partie des tauliers de l'effectif. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs comme ça qui avaient peut-être cette liberté de ton et peut-être de dire au professeur Christian Gourcuff que, où est-ce que tu nous embarques, quoi. Enfin, là, l'équipe, elle va pas faire le taf. Est-ce qu'il y avait d'autres joueurs qui avaient cette liberté de ton avec Christian?
Moi, j'avais pas de liberté de ton avec Christian.
Ok, d'accord.
Je le dis là, mais c'était pas aussi facile que ça à dire à Christian.
Ok.
J'ai jamais eu un positionnement autre que celui de joueur.
D'accord.
Là, je l'ai pensé très très fort. Une fois, c'est parti, ça nous est sorti un petit peu trop fort, mais voilà. Mais j'ai jamais eu une liberté de ton avec Christian.
D'accord, c'est plus les réflexions que tu faisais toi, et en te disant, bon, l'effectif, là, je ne sais pas où il va. Ok, d'accord. Non, c'est intéressant, parce que je me suis dit, ça, c'est bizarre quand même. Ouais, bon, bref, ok.
Non, pas trop. Christian n'était pas, de base, n'est pas un grand bavard, et ce qui nous amenait tous les...
On a fait 2h30 avec lui, quand même. On aurait pu faire plus.
On n'est pas ses joueurs non plus.
Attends, pas de football. En fait, c'est dans le quotidien c'était pas non plus un grand bavard, quoi. Dans le quotidien, dans les entraînements, on passait pas notre temps à discuter l'un et l'autre. Donc voilà, il avait des rapports un peu privilégiés avec certains joueurs, mais il avait quand même son. Enfin, c'était lui qui décidait, quoi, globalement. Il n'y avait pas monde qui pouvait dire quoi.
Et ça, d'ailleurs, sur ces années au club, t'as, ça a changé ta relation avec le coach enfin, au fur et à mesure. T'as senti peut-être cette carapace s'ouvrir un petit peu dans les échanges avec lui ou c'est resté très pro?
Non, c'est resté relativement pro. J'ai pas senti d'évolution particulière. Si, hors match, on arrivait à avoir des discussions hors football. Voilà, mais globalement, non, c'était pas. Moi, je n'étais pas non plus dans cette recherche-là. Je ne cherchais pas à avoir de privilèges ou d'avoir des rapports avec lui particuliers. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le contenu de ses entraînements et le contenu des matchs, quoi. Enfin, finalement, je me suis contenté d'être un joueur intègre et à son service parce que j'ai mis retrouvé là-dedans aussi, quoi. Mmh.
En quoi, du coup, l'évolution aussi de ces techniques et l'évolution aussi du club, la structure, enfin, entre ce que tu as connu sur tes premières années et la fin de ton expérience au FCL, il y a eu quand même énormément d'évolutions, infrastructures, la technique, des outils, etc. En quoi ça t'a, on va dire, influencé dans ton rôle de gardien aussi, puisque le club a fait quand même pas mal d'efforts là-dessus?
Non, moi, je pense pas que j'ai évolué par rapport au club. J'ai toujours gardé ma ligne directrice. On a travaillé les entraînements différemment. Moi, j'étais toujours en train j'essayais en tout cas toujours de rechercher la perfection. En tout cas, dans mon rôle, hein, je parle. J'étais quand même quelqu'un qui était plutôt intransigeant envers lui, envers moi. Voilà, où je me contentais très peu de ce que j'avais. Et j'essaie toujours pousser les entraînements au maximum, quoi. Si c'est ça le sens de la question, voilà. Après, dans les infrastructures, ça a vachement évolué quand même, parce que c'était surtout la qualité de l'outil qu'on nous a mis en place, quoi. Parce qu'au début, je sais pas si vous vous en rappelez, mais on faisait le tour des terrains de Lorient, quoi.
Il y a Kerjulaud, il y a eu l'annexe, il y a des trucs de ce type-là, ouais, sur des terrains, franchement, c'est pas niveau Ligue 1, quoi.
C'est un paquet, quoi. Et là, je les retrouve tous avec le nouveau rôle que j'ai, mais je les connais tous, les terrains de foot à Lorient. Donc c'était un mode particulier. Je sais pas si les gens s'imaginent que maintenant, on mettrait n'importe quel joueur dans sa voiture, aller à l'entraînement à l'autre bout de Lorient, quoi. Mais c'était rigolo, moi ça m'allait bien, hein. Franchement, c'est aussi ça que j'aimais bien. Et là, le club, c'est là où on dit que les infrastructures ont quand même bien évolué et que le club a grandi et s'est maintenu dans un système. Enfin, on ne peut pas reprocher beaucoup de choses à l'évolution du club, quand même, globalement.
Non,
c'est pour ça.
Non, c'est clair.
Sur ton parcours au FC Lorient, évidemment, il y a des très bons souvenirs et des moins bons souvenirs. Alors, on commence par les très bons. Si tu penses à ta carrière au FC Lorient, au FC Lorient, c'est quoi le meilleur souvenir que tu as sous le maillot lorienté?
Il y en a deux. Je dirais la montée, parce que c'est quand même quelque chose qui m'a suivi tout au long après de la carrière. Et puis on est monté, on y est resté pendant un petit moment, quoi, jusqu'à que moi je suis parti, je suis resté en Ligue 1. Donc ça, c'est vraiment. Et puis c'était une fête absolue. On nous attendait pas là. Le contexte du dernier match. Enfin, il y avait plein de choses qui ont fait que c'était un événement, c'était super vivant, quoi. Et après, s'il y a un deuxième truc, je dirais que c'est plus global, c'est les 300 et quelques matchs, quoi. Voilà, moi, c'est comme je te dis, c'est pour moi, c'est le moment, il est là, quoi. C'est la globalité de ce que j'ai pu faire à Lorient, quoi. Et alors dans tout ça, il y a des matchs qui sont sans doute moins bons, il y en a beaucoup, mais dans l'ensemble, que je garde de Lorient, c'est la longévité dans ce club, quoi. Même si la fillette a battu.
Sur la montée, justement, tu dis on ne nous attendait pas là, etc. Qu'est-ce qui a fait que ce groupe a réussi à aller chercher cette place, justement, pour monter en Ligue 1? Puisque tu dis on ne nous attendait pas là. Tu penses qu'il n'y avait pas l'effectif pour, à la base?
Bah, si, parce qu'on est monté.
Mais
non, on n'était pas référencé dans les grands prétendants à la montée cette année-là. Moi, je fais une belle saison cette année-là. Défensivement, on était assez carré.
Ouais, c'est costaud.
Ouais, on avait pris très peu de buts cette année-là. Je ne pense pas qu'on était référencé pour notre jeu d'attaque, même si. Mais je pense que cette année-là, bizarrement, on fait la montée sur la défense, quoi, presque. Ouais. En tout cas, sur l'organisation, quoi. Tu vois, sur l'organisation, je pense qu'on était hyper rigoureux, hyper disciplinés. avec un état d'esprit irréprochable, quoi. Et il y avait Karim Ziani qui fait cette année-là peut-être l'une de ses meilleures saisons professionnelles. Il nous fait pas tous les matchs, quoi. Donc voilà, en gros, c'était porté sur ça, quoi. Et on avait des joueurs de devoir, de valeur, avec un collectif performant, quoi. Et donc c'était ça. C'est pour ça qu'on n'avait pas de. Je me rappelle même plus qui était l'attaquant, tu vois. Enfin. Il y avait Karim, et devant, c'était Virgil Rezet.
T'avais Virgil Rezet, Rahman Barry, qui marque notamment sur le dernier match.
Rezet, c'est le but de la montée,
C'est pas Rahman qui marque le
but. C'est Rahman, ouais.
Tu vois, c'est pas des gros noms, quoi, sur au final. Donc, on monte parce que collectivement, on est irréprochable, quoi.
Et t'en as un troisième qui marque, le troisième, d'ailleurs.
Là, je l'ai pas en tête. C'est le match de Reims, hein, c'est ça?
Ouais, Rezet, Barry et... Ah, j'ai un trou de mémoire.
Fabrice et...
Non, je crois pas.
Ouais, d'ailleurs, cette année-là, tu termines pas meilleur gardien de la saison?
Si, Ligue 2, ouais, au trophée UNFP, quoi.
Ça fait un trophée, Fabien. Voilà.
C'est quand même une belle récompense.
Voilà, il est là, le trophée.
Et c'est Ziani qui marque le troisième but.
Ouais, bah voilà. Ouais. Voilà. C'est QFD.
Ma mémoire m'est revenue.
Ah mais quand tu vois que la saison, il fallait aller peut-être avec des matchs en bois à Créteil-Lusitanos, des choses de ce type-là. Enfin, oh là là, c'était le croix et la bannière pour monter. Bah ouais, et d'ailleurs,
c'était des moments. Après, c'est des super moments, hein, parce que on y va avec un groupe réduit, quoi. On n'était pas non plus 30 joueurs cette année-là, quoi. On y va vraiment avec un groupe réduit, beaucoup de jeunes. Pas beaucoup de joueurs référencés en termes de Ligue 2, Ligue 1. Donc voilà, c'est pour ça que moi, c'est ce type d'événement qui me porte, parce que on a tiré le maximum de ce qu'on a pu tirer de ce groupe-là, quoi. Et ça, c'est grâce au travail, c'est grâce à ce que Christian mettait en place. Enfin voilà, c'est ça que je trouve bien, quoi.
Et sinon, à l'inverse, des moments un peu compliqués, des valises ou des moments difficiles à vivre sur le terrain?
Ouais, ben c'est sûr que quand on apprend... après, c'était rare quand même. C'est peut-être très peu de fois où on a pris 5-6 buts dans l'année. Mais la dernière saison, je crois qu'on prend... on a fait 2-3 fois un 6-0, je crois, à Lille ou un truc comme ça. Mais il n'y avait pas un truc comme ça.
5-1, je crois.
C'est les traditions. Lorient prend toujours des valises à Lille.
Ouais, il y avait Lille, il y avait Bordeaux.
Valenciennes.
Ouais, mais Valenciennes, on prenait jamais de, rouste, on perdait, mais on prenait pas de rouste. Il y avait Bordeaux où ça se passait globalement pas très bien, aussi. Mais voilà, on avait 2-3 équipes où ça se passait mal, mais non, j'ai pas particulièrement des mauvais souvenirs comme ça.
C'était toi dans les cages un match face à Istres où il y a un vent de fou et c'est quasiment injouable. Ouais, c'est toi.
C'est moi et c'est rigolo que tu parles de ce match-là parce que c'est un pote à moi qui marque, mon meilleur ami dans le foot, peut-être l'un des seuls que j'ai conservé, qui marque ce but-là alors que je m'accroche, je suis le con, le vent, il remet le ballon dans le jeu et je m'accroche à la barre.
À la barre transversale, comme d'habitude. T'as une relation charnelle avec la barre transversale, je crois.
Voilà, il retombe sur la barre et il revient dans le cul de mon pote et il marque, donc ouais, c'était pas top. Ouais.
Mais d'ailleurs, il y a cette image qui reste avec la barre transversale, et puis bah, il y a les petites claquettes aussi pour les photographes. Est-ce que tu peux nous en parler?
Ouais, je peux, oui. Après, ça, ça vient naturellement, quoi. Enfin, il n'y a pas de.
Non, mais ça faisait partie de ta palette, quand même.
Mais oui, c'était. Ouais, après, ça fait partie de la technique d'un gardien. Il faut être capable de le faire aussi. Hein, c'est ça, mais c'est toujours jubilatoire de le faire. Et moi, ça me faisait plaisir. C'était des petits moments de plaisir, ça.
Et moi, il y a un autre point qui me reste assez fréquemment en tête, c'est constamment la relance à la main à gauche. Toujours sur le latéral gauche. Est-ce que du coup, c'est des consignes ou... Fabien Audard, pour moi, ça relance à gauche tout le temps.
Ah bon? J'avais fait attention. Après, j'étais droitier, donc ça permettait de la laisser dans le terrain et de la mettre vite dans les pieds et dans la profondeur. Ça pouvait être une des consignes premières de Christian. Quand on parlait tout à l'heure du rôle du gardien de but, cette consigne-là, elle était effective. Oui, il fallait aller vite et relancer à la main. Moi, le relancer à la main, c'est quelque chose que j'aimais bien parce que ça permettait d'aller plus vite et d'être beaucoup plus précis qu'au pied. pour ma part en tout cas. C'était aussi une question de rapidité, et le mec, il pouvait, le latéral ou le milieu pouvait enchaîner assez vite sur une prise de balle et se projeter vite fait vers l'avant, quoi. Donc oui, je l'ai fait souvent, ça va. Mais ça, c'était aussi l'effet que voulait ma main droite, de par la main droite qui...
Oui, bien sûr, c'est le meilleur angle.
De longer la ligne et de la mettre le plus possible vite vers l'avant, quoi.
Tu as eu des tauliers en défense centrale. Avec qui tu t'es senti le plus protégé?
Et pour moi, c'est l'un des meilleurs qui est passé à Lorient. En plus, en termes de joueurs, je parle, c'est Lolo, ouais. Qui, à mon sens, d'ailleurs, c'est celui qui a fait sans doute la meilleure carrière derrière. Il y en a eu d'autres, mais Laurent, il n'est pas resté très longtemps, mais il m'a marqué parce qu'il avait une... Il avait une vitesse, une qualité physique, il pouvait être très méchant sur l'homme, sans s'en rendre compte, mais il n'était pas sympa à avoir sur le dos. Et puis après, il avait une qualité technique, contrôle passe, des choses très très simples, qui pour moi, dès le premier entraînement, ça m'avait marqué la qualité contrôle passe. C'était impressionnant. Donc oui, s'il y en a un à retenir, c'est lui. Et après, il y a le côté affectif, ce serait sans doute Ben Janton, quoi. Voilà, après. Ouais. Mais pour d'autres raisons, Ben, c'était sérieux, c'était la rigolade. On a rigolé, quoi. Enfin, et puis, c'est celui avec qui je suis resté plus longtemps, quoi.
Vas-y.
Je trouve que Ben, par exemple, c'est quelqu'un qui a l'image de ce qu'on a voulu faire pendant des années, quoi. Ben, c'était pas le meilleur joueur de football. Par contre, en termes d'investissement, de progrès, d'implication, de collectif, voilà, il représente aussi assez bien ce que Christian voulait mettre en place et ce que nous on essayait de mettre en place au quotidien aussi, quoi. Et je trouve que pour moi, c'est aussi une référence sur ça, quoi.
Donc, pour toi, tu as mentionné, si je ne dis pas de bêtises, qu'Ossiani, c'est même le joueur tout poste confondu le plus fort avec lequel tu es évolué?
À Lorient, oui.
Oui, à Lorient, oui. À Monaco, il y a peut-être un peu mieux, ouais, mais...
Même, franchement, j'ai eu des très bons joueurs à Monaco, mais je crois qu'il était quand même assez impressionnant, et puis c'était hyper sécurisant de jouer avec lui, quoi. Enfin, quand il commençait à tirer sur ses bras et à repartir en profondeur, ben, je restais sur ma ligne parce que je savais qu'il avait la balle, quoi. Globalement, c'était... il était tellement puissant que voilà. Non, après, il y a eu des bons joueurs. Je pense, je vais pas tous les citer parce que malgré tout, il y en a eu un paquet et je vais sans doute en oublier, mais même Kevin, pour moi, c'était un joueur top classe aussi, quoi. D'ailleurs, sa carrière aussi, elle parle pour lui. Hein.
Ouais, Gamero à l'entraînement, l'avoir face à soi, ça va pas être sympa tous les jours.
Ouais, mais il paye pas de mine, Kevin, quoi. Enfin, ouais. Et c'est quelqu'un qui arrivait toujours à faire le bon geste au bon moment. Il avait des appels très intelligents. Enfin, voilà. Et lui aussi, je trouve qu'il reflète bien ce qu'on mettait en place. C'était pas un gros physique. Il était intelligent dans ce qu'il faisait et il nous a apporté sur ça, quoi. Et c'était vachement, vachement bien, quoi.
Donc ça, c'est les joueurs avec qui tu as évolué. Des attaquants du championnat de France, tu en as croisé 3-4 aussi. Celui qui t'a le plus marqué ou tu... celui qui t'a le plus impressionné, quoi, ou ceux qui t'ont le plus impressionné?
J'ai pas trop de rêves sur ça. Après, Zlatan sur un truc complètement différent, mais voilà, où individuellement il arrivait à Lorient, il arrivait à Paris à l'époque. Moi, je le connaissais de loin, et c'est vrai que quand tu joues contre lui, ça fait quand même quelque chose, quoi, physiquement.
C'est le match où il casse en deux Bruno Ekwelemanga, je crois, c'est pas ça?
Ouais, le premier match, je crois que c'est contre nous, il met son premier pénalty, il met contre nous.
Ouais.
Premier but à Ligue 1, voilà, c'est un autre trophée que j'ai, je crois que c'est lui qui m'a mis sur moi. Après, il y en a eu plein, enfin, il y a quand même de la qualité à Ligue 1. Un citer, en sortir un ou deux, c'est compliqué, quoi.
Ouais, mais c'est marrant qu'il n'y ait pas un joueur comme ça qui t'ait marqué, parce que des attaquants, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, t'en as affronté plusieurs, c'est marrant qu'il n'y en ait pas un que tu ressortes, que tu as affronté à plusieurs reprises et tu n'arrivais pas à le gérer et tout, c'est aussi impressionnant.
Parce que je pense que je me suis toujours, c'est ce que je disais un peu en préambule au début, je me suis toujours, comment dire, ma référence était ce qu'on faisait nous, quoi, pas ce que les autres faisaient. Ouais. Et je crois que c'est pour ça aussi que les autres joueurs ne me marquaient pas forcément. Voilà, ça restait des adversaires. Et moi, j'étais toujours dans ce que nous, on essayait de mettre en place et ce que nous, on essayait de faire, quoi. En fait, c'est ça mon intérêt dans un match. Après, il y a toujours eu des joueurs supérieurs à nous et des équipes supérieures à Lorient, quoi. Et il y en aura toujours. À part que, à un moment donné, tu te concentres sur ce que tu sais faire et ce que tu dois faire pour être performant, quoi. Et moi, c'était ça le but des matchs. C'était pas de me comparer aux autres et de comparer les autres joueurs par rapport à nous, quoi. C'était collectivement qu'on essayait de trouver des solutions.
Est-ce que c'est pas un peu la philosophie de Christian Gourcuff aussi, en partie? Clairement, elle se retrouve dans ses propos.
Bah, je pense que j'ai été quand même un peu formaté par Christian. Si là on me demandait de jouer tactiquement, je pense que je jouerais un 4-4-2. Moi j'ai été formaté par Christian. En tout cas, en termes collectifs, en termes de football pur et dur, ma référence c'est Christian, quoi.
Un joueur qui t'a marqué, on est obligé de parler de ça évidemment, on va pas faire 8 jours dessus, mais quand même, un joueur qui t'a marqué malgré toi, c'est Mathieu Valbuena, parce que en préparant l'émission, j'ai fait Fabien Andard YouTube. Alors la première, c'est une vidéo de la Ligue, Best of Fabien Andard, donc ça c'est bien. La troisième, la quatrième et la cinquième, c'est Valbuena. Tu veux revenir là-dessus très rapidement, parce que c'est un truc qui, mine de rien, est attaché à toi et qui a pourtant pas une grande importance dans ta carrière, je pense.
Oui, c'est forcément que c'est regrettable. C'est regrettable parce que souvent, quand on me dit, quand on me relate ma carrière ou des choses comme ça, ben, ce qui ressort en premier, comme tu dis, ben, c'est la claque. Voilà. Après, j'ai pas de regrets, j'ai pas d'animosité contre lui. Mais le seul truc qui me dérange maintenant, c'est juste qu'on se rappelle que de ça, quoi, parce que sur 320 matchs à Lorient, on se rappelle que de ces gestes-là. Et je pense qu'il y a eu d'autres bonnes choses qui ont été faites et d'autres mauvaises. Hein, mais en tout cas, ça me gêne un peu que l'image que j'ai pu laisser aux gens, ce soit celle-ci, quoi. C'est juste ça qui me dérange. Après, ça fait partie de ma carrière. Je suis un joueur comme ça, j'étais impulsif.
Je pense pas que pour les supporters orientés et ceux qui suivent vraiment le foot, ce soit cette image-là qui se raccroche à toi. Je pense même que c'est de l'ordre de l'anecdotique.
Oui.
Et d'ailleurs, ouais. Ça peut te rassurer, hein, sur YouTube, le premier truc qui sort, c'est ton best-of. Et il dure 4 ou 5 minutes quand même. Donc, on a 2-3 gardiens en tête, ça dure pas 5 minutes le best-of. Donc, c'est plutôt positif.
Là, le rôle dans le vestiaire aussi. On parlait du rôle de troisième gardien en fin d'expérience, mais du coup le rôle dans le vestiaire, est-ce qu'il a évolué, etc. Enfin, quel poids t'avais aussi à ce niveau-là, au niveau de l'équipe. Enfin, t'étais plutôt. Enfin, moi je garde une image très vocale sur le terrain, mais est-ce que ça se retrouvait aussi au sein des vestiaires ou plus sobre?
Non, pas trop dans le vestiaire. Je sais que Christian, déjà, il monopolisait quand même beaucoup l'attention et le discours. Il savait ce qu'il avait à dire et globalement, on s'en tenait à ce qu'il avait à dire. C'est vrai que moi, j'étais beaucoup plus vocal sur le terrain, où là, j'avais un rôle. J'étais souvent en train de crier parce que voilà, les placements, avec le temps, finalement, je les ai un peu plus maîtrisés que certains. Et puis, comme j'adhérais complètement au système de Christian, je le maîtrisais sans doute beaucoup mieux que certains, et je savais ce que lui il attendait de nous et de certains joueurs et de certaines positions, voilà.
Mais c'est vrai que tu sais pourquoi il t'a gardé maintenant, ça doit être ça.
T'as raison, je pense que globalement il savait très bien que je maîtrisais et que j'étais un bon relais sur le terrain quand lui il pouvait pas parler, quoi. Parce que lui c'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup, qui faisait des grands gestes sur le bord du terrain, quoi. Donc il savait que moi j'avais ce rôle là à tous les coups de pied arrêtés. Ben, souvent, j'allais faire un tour un peu plus haut pour discuter avec Ben ou avec d'autres défenseurs. On avait toujours des échanges pendant le match sur ce qu'on devait faire, comment on devait le faire. Et je pense que le relais, il était là avec Christian. Il n'était pas forcément dans le vestiaire, effectivement, mais surtout pendant le match et sur le terrain, quoi. Après, il m'avait aussi donné le rôle de capitaine pendant un moment. Ne m'intéressait pas spécialement, j'avais une mise en avant qui me correspondait pas forcément non plus. Et puis aussi, à ce moment-là, je me suis senti aussi obligé de parler pendant le vestiaire, quoi. Et c'est pas à ce moment-là que je préférais, quoi. Et du coup, je pense qu'il s'en est aussi rendu compte, il me l'a vite enlevé parce que avec des échanges qu'on avait eu ensemble, parce que je pense que je ne m'y retrouvais pas et que lui, il ne devait pas s'y retrouver non plus, quoi.
Ok.
Tout à l'heure, en début de podcast, on a un peu parlé du jeu au pied. C'est un grand débat qui nous anime, nous, ici à la taverne. Pierrot, ici présent, et considère que les gardiens n'ont pas spécialement besoin de jouer au pied, et au contraire.
Ah, merci.
Alors, vous l'avez pas vu, mais pouce levé du côté de Fabien Audard. Au contraire, d'autres, non pas moi évidemment, mais mes collègues, pensent que bah, voilà, c'est devenu le 11e joueur de champ. Tu te situes où du coup?
Alors, moi je considère que le jeu-pied est sans doute important, mais qu'on lui donne trop d'importance. Pour moi, le rôle d'un gardien de but, ça reste quand même d'arrêter des ballons. Et la première chose qu'on lui demande, c'est d'être présent sur sa ligne, dans les sorties aériennes, tous les jeux à la main, c'est le rôle du gardien de but. Alors après, s'il a un jeu au pied qui est plutôt efficace, tant mieux, j'ai envie de dire. Et c'est aussi l'évolution du rôle de gardien de but qui veut ça, et il faut quand même avoir un minimum. Là, je trouve qu'on est en train de dériver entre le rôle de gardien de but et le rôle de 11e joueur, quoi. Donc, ce qui me gêne un peu, c'est que maintenant, on regarde plus leur activité avec les pieds que les arrêts qu'ils vont faire, quoi. Et je trouve ça un peu dommageable, quand même.
Mais tu penses pas que c'est quelque chose qui est un peu... c'est l'évolution du foot, et finalement, un gardien de but doit être à l'aise avec les mains, avec les pieds. L'un n'empêche pas l'autre.
Avec les mains, la précise, la première avec les mains, quoi.
Oui, ouais, bien sûr.
Je trouve que c'est important, parce qu'il me semble, là, je regarde encore un peu de match, et... je trouve que les gardiens, ils sont de moins en moins décisifs sur leur ligne, ils ont de moins en moins de présence. Dès que les ballons, ils sont à 1m2, ils ont tendance à plus trop les toucher. Je les trouve, je vais faire le vieux rabat-joie peut-être, mais...
Non, c'est intéressant.
Je trouve que la qualité technique pure et dure du gardien, la prise de balle, le déplacement, les sorties dans les pieds... après, c'est mon école à moi, c'est mon école, donc c'est quelque chose sur lequel je suis hyper attentif, mais je trouve qu'ils sont de moins en moins bons, quoi. Enfin, globalement, il n'y a pas un gardien qui me fait rêver à l'heure actuelle, quoi. Voilà,
c'est fort comme discours. Ouais.
Après, c'est mon ressenti.
Bien sûr.
Rôle de gardien de but, si tu veux. Et après, il y en a beaucoup qui sont meilleurs que moi au pied, il n'y a pas de souci, ou que je l'étais en tout cas. Mais je trouve que dans la voilà sur le il y en a qui sont meilleurs que moi sur la ligne aussi, il y a plein de sujets, mais
je trouve c'est sur le domaine aérien où je trouve que aujourd'hui, alors je sais pas si les attaquants sautent plus haut et que du coup il y a plus de détente, etc., c'est plus physique peut-être, mais là où je te rejoins à 110 millions de pourcents, c'est que d'un point de vue défense aérienne côté gardien, c'est beaucoup plus rare, comme si on demandait aux gardiens de ne pas sortir, en fait, un peu à la chasse aux papillons, sur les corners, etc. Donc, sur ça, ouais, complètement.
Après, ce rôle-là, il faut l'accepter. Je suis passé à travers plein de fois. C'est pas facile quand tu passes à travers sur une sortie.
Surtout quand t'en mets une à ton coéquipier. Parce que...
c'est possible. Ça pouvait être possible aussi. Mais voilà, c'est vraiment quand tu passes à travers sur une sortie aérienne, il faut l'accepter et il faut se dire que sur 10 que tu vas aller chercher, peut-être qu'il y en a une que tu vas passer à travers, mais tu auras évité 9 actions derrière. Et c'était ça, moi, ma vision des choses, c'est de dire que, en gros, je faisais. Si on regarde les stats, je suis pas sûr que j'étais un gardien qui fasse beaucoup d'arrêts, en tout cas, qui avait beaucoup de parades avec tous les stats qui sortent maintenant sur le nombre d'arrêts effectués par un gardien. Je ne crois pas que j'étais dans les meilleurs, mais il y avait malgré tout, il y avait 9 ou 8 prises aériennes qui a évité d'avoir 9 actions ou 9 arrêts à faire derrière. Et je pense que ça, c'était important. Et oui, là où je te rejoins, c'est que je trouve qu'il y a de moins en moins de gardiens qui sortent. Mais à côté de ça, je trouve malgré tout qu'il y a de moins en moins de gardiens qui font des arrêts plutôt décisifs, ou en tout cas, où ils font des exploits, quoi. C'est le ressenti que j'ai depuis un petit moment. Et le dernier gardien qui m'a fait un peu rêver en termes de technique pure et dure, c'est Yuris, quoi. Enfin, que depuis, ça manque un peu de technique, quoi. Enfin, voilà.
Tu penses que c'est plus le physique aujourd'hui qui prime, du coup? Mais enfin, t'as des gardiens qui sont quand même très agiles maintenant, ou peut-être qu'ils sont trop grands aussi, manque d'agilité, c'est peut-être le choix aussi de certains physiques.
Je pense que ça joue, parce que maintenant on se rend bien compte que si on ne mesure pas 2 mètres, on ne peut pas être gardien de but, presque. La sélection se fait à la base sur la taille, on voit bien, hein. Globalement, j'entends souvent l'audition parler. Lui, si le gardien ne fait pas 2 mètres, en gros, il ne prend pas, quoi. C'est l'une des premières choses qu'ils regardent. Et après, ça dépend ce qu'on demande aussi aux gardiens, quoi. Si on leur demande d'être bon au pied et pas forcément performant avec, avec les mêmes, ben, c'est un peu le choix d'un entraîneur aussi. Hein.
Et il y a un aspect du rôle de gardien qui est hyper important aussi, qui est les pénaltys. Tu parlais d'Hugo Lloris, qui, alors, lui, ne brille pas particulièrement sur cet exercice. Toi, de mémoire, je vais peut-être dire une énorme connerie, mais de mémoire, tu en as sorti quelques-uns. J'en ai souvenir d'un à Bordeaux.
Je vais tempérer, c'est pas trop la tasse de thé de Fabien, les pénaltys.
Non, j'ai souvenir d'un à Bordeaux.
Non.
C'est une bonne période en début. À Lorient, c'était un peu compliqué, ouais. C'était pas trop mon truc, non. C'était pas marrant.
D'ailleurs, je trouve que Capone avait souvent dans cet exercice, c'était pas trop mauvais.
Pour causer les pénalties ou pour les...
Non,
oui, les deux.
Les deux.
C'est de l'amour ici.
Non, c'était pas ma qualité première. Après, moi, je trouve que les pénalties, c'est anecdotique. C'est beaucoup de réussite, beaucoup de chance.
Puis là, pour le coup, maintenant, les gardiens sont complètement désavantagés sur l'exercice. Et...
Non, maintenant, c'est en gros, c'est devenu n'importe quoi. Enfin, nous, on n'a plus le droit de jouer au chat et à la souris. Le jeu du pénalty pour le gardien, la seule chance de s'en sortir, c'est en étant un petit peu malin et en anticipant.
La psychologie, le fait de déconcentrer.
Et là, carrément, on donne toute la chance à l'attaquant, quoi. Enfin, en gros, on lui a donné encore plus de pourcentage de réussite en faisant toutes les règles qui sont sorties. Là, enfin, c'est juste impossible. Enfin, c'est de plus en plus compliqué d'arrêter un penalty, je pense.
Ouais, c'est clair.
Tu disais que tu regardes encore un petit peu de foot. Alors, on parlera de ta nouvelle carrière, ta seconde carrière un petit peu plus tard. Ton regard sur le football actuel, sur la Ligue 1, sur le foot en général? Qu'est-ce que t'aimes bien? Qu'est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce qui te fait rêver? Qu'est-ce qui t'ennuie profondément?
Je le regarde pas tant que ça, parce qu'en termes de spectacle, des fois, je m'y retrouve pas trop. Donc, je regarde beaucoup moins que ce que j'ai regardé quand j'étais joueur. Après, moi, je trouve que c'est devenu très médiatique, qu'on remet trop l'individu et on parle tellement peu de collectif que voilà, moi ça me gêne globalement. C'est ce que je regrette dans l'évolution du football, hein. Voilà, c'est la place de l'individu dans le collectif, quoi. Je trouve qu'elle est prédominante et que elle permet pas aux équipes de progresser et d'évoluer dans le bon sens, quoi. Et ça se ressent, je trouve qu'en termes de spectacle, ça se ressent aussi. Tout est basé sur l'individu, sur l'individualité. Et que collectivement, on voit de moins en moins de choses. Quoi.
Tu vas souvent voir les matchs au Moustard?
Moins.
Est-ce que tu as un avis aujourd'hui sur l'équipe actuelle?
Après, oui, j'ai un avis. Moi, je trouve que footballistiquement, il y a eu des choses qui ont été intéressantes à l'arrivée de Régis. Voilà, quand il est arrivé au tout début, j'ai trouvé que footballistiquement, il y avait beaucoup de choses intéressantes.
Est-ce que tu peux développer avec ton œil de pro? Parce que du coup, c'est ce qu'on essayait aussi la saison dernière de décrypter. Est-ce que toi, tu peux nous donner un peu ta lecture?
Je trouve que quand il est arrivé, il y avait de la fraîcheur. Il y avait de nouveau un jeu vers l'avant, du pressing haut, des passes, beaucoup de passes. J'ai en tête un match que j'avais vu, c'était Nice, Lorient-Nice, qui perdent. Mais je crois que cette première mi-temps-là, j'ai jamais vu un FCL aussi bon que ce jour-là. Ce match-là, je trouve que c'était un accomplissement en termes de collectif et de niveau de jeu. Collectif, je parle. Malgré tout, ils perdent le match, quoi. Donc, comme quoi, des fois, on peut aussi se dire que...
Attends, t'as connu sous Gourcuff des matchs où c'est chiadé et puis finalement, tu perds.
Ouais, mais... pas autant que ce jour-là contre Nice. J'avais trouvé franchement une performance collective. J'avais trouvé ça. Je me suis dit, oh, putain, où on va là? Enfin, en jouant comme ça, on peut faire des choses vraiment bien. Et après, je trouve que ça s'est délité. On est reparti un peu sur du physique, sur des gros gabarits. Moi, Régis, quand je l'ai connu, il jouait qu'à 4-2 tout le temps. Et voilà. Après, c'est toujours ma déformation, mais ouais. Là, passage à 3 derrière, c'est déjà une tactique que je ne supporte pas. Je trouve que c'est très régressif. Ça ne permet pas de produire du football. Voilà, c'est un choix. C'est un choix qui est très court terme et qui est basé sur le résultat.
Et pourtant, Régis Lebris ne l'a pas forcément mis pour faire du court terme, puisqu'il a basé tout son recrutement sur ce système-là en début de saison.
Après, c'est aussi ce que demande le public, les gens, la presse, les présidents. Voilà, on est sur une forme de résultat. Donc, on voit que sur du court terme. L'avantage de Christian à l'époque, c'est qu'il était tellement en place que on pouvait se permettre de perdre 2-3 matchs d'affilée et ne pas avoir à remettre en cause son système ou sa façon de voir les choses. C'est aussi ce qui me dérange maintenant dans le football moderne, c'est que à la moindre défaite, on remet tout en question. Et voilà. Et du coup, je trouve que le niveau général des équipes baisse parce que on n'a pas le temps de travailler, parce que un coach, il fait 6 mois, s'il n'est pas au niveau où on l'attend, on le dégage. Donc ça aide pas à progresser, ça aide pas à mettre des choses en place, ça aide pas à voir les choses dans le long terme, ça force sans doute les entraîneurs à voir sur du court terme. Et le jour où on dira, même si l'entraîneur il perd 6 matchs d'affilée, mais que voilà, il y a un concept de jeu qui est en place et qui met du temps à se mettre en place, ben on le laisse. Voilà.
Et est-ce que c'est pas en ça que le FC Lorient avait une place particulière dans le monde du football sous l'ère Christian Gourcuff au final?
Ouais, mais Christian, il s'est gagné, quoi. Donc du coup, c'est ça qui lui donne sa légitimité, pardon. Ses concepts, tout le monde a adhéré dessus parce qu'il a gagné avec au départ. S'il avait perdu sur les 10 premiers matchs où il était à Lorient avec ses concepts de jeu-là, peut-être qu'à l'époque on lui aurait pas donné sa chance aussi, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser la chance aux choses. Après, moi je suis pas à l'intérieur des clubs, je sais pas comment ils travaillent. Il faut être présent. Je pense qu'il faut quand même malgré tout être présent et savoir ce qui se passe tous les jours au quotidien dans les clubs pour savoir si ça travaille de la bonne des manières. Mais pour moi c'est ça qui est important, c'est le travail au quotidien de mettre des choses en place tous les jours. C'est pas se renier à la première défaite et changer de dès qu'on sent que le vent il tourne, quoi.
Ouais, après c'est toi justement. Fou. Vas-y Lucas. Lucas qui est apparu d'ici là. Bonjour Lucas.
Bonjour.
Bonjour à tous. Si tu avais voulu continuer dans le foot, toi après, un poste dans un club où tu sens que tu aurais pu avoir de l'impact justement, parce qu'on te voit un peu critique sur certaines évolutions du foot, t'as ton avis là-dessus. Quel poste t'aurais choisi, je sais pas, directeur sportif dans un staff auprès des jeunes?
Déjà, j'aurais été dans un poste que je maîtrise. Donc, moi, j'aurais été sur un poste d'entraîneur des gardiens, sans doute, parce que c'est mon rôle et parce que c'est celui que je maîtrise le mieux et c'est celui où j'ai le plus d'avis. Je crois que je serais allé dans la formation, voilà, entraîneur des gardiens jeunes, parce que pour moi, la base du travail, elle est là, quoi. Enfin, c'est sur ce que tu apprends quand tu es jeune et que tu es que tu peux après être le plus représentatif de ce que ta carrière va devenir, en tout cas.
Tu penses y revenir ou pas?
Je pense, quand tu sors de ce milieu-là, généralement, pour y retourner, c'est compliqué. Je dis pas non, hein, mais ça me paraît compliqué quand même.
Est-ce qu'on t'a proposé à la fin de ta carrière le club, Lorient, a proposé une reconversion dans le club en tant que formateur ou c'était ou pas du tout?
Non, pas du tout. Pas dans ce secteur-là. Après, ce n'était pas un choix que j'avais affiché à l'époque aussi, il faut être aussi honnête. Mm-hmm. C'est pas le... Eux, ils me voyaient dans un rôle, une espèce de rôle d'ambassadeur et c'est pas ce rôle-là où je me sentais le plus à l'aise. Moi, si j'étais sur quelque chose si j'avais un rôle à jouer, en tout cas, à OSL à l'époque, c'était être acteur. Je voulais pas laisser les mains et aller dire j'existe, écoutez, bonjour, je suis Fabien Audard, j'ai un palmarès à Lorient et en gros, venez par là et moi, quoi. C'est pas le rôle
ça te donne pas envie quand tu vois Le Lange, Janton, Cosciani aujourd'hui occuper des postes sur des sections, ouais, etc. Parce qu'au final, c'est t'as joué avec eux. Enfin, voilà, c'est ça peut aussi donner envie.
Non, je franchement, quand j'ai arrêté, j'avais pas d'envie particulière. Maintenant, je te dis pas que j'ai pas des envies qui me viennent de temps en temps de remettre le nez à la fenêtre, parce que c'est bien beau de parler dans son coin, d'avoir le jugement un peu sur tout le monde et d'avoir cette envie que les choses soient ce que tu as envie de mettre en place, quoi, ou en tout cas ce que tu as envie de voir, tu as envie de le mettre en place. Mais c'est pas un souhait absolu, en tout cas, c'est pas quelque chose que je désire à 120%. Maintenant, je dis pas que je le referai pas, quoi. En tout cas, si on me le proposait, je dis pas que j'irai pas.
Alors justement, on parle de ton après-carrière. Choix original pour un footballeur. Tu te lances en politique. Alors au niveau local, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est fait? Quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu fais? En quoi consistent les journées de Fabien Andard aujourd'hui?
Déjà, je ne me suis pas lancé dans la politique. Pas le mot que j'utiliserai. Moi, je suis allé par hasard. Il y a Marc Boutruche à l'époque qui était maire de Québec, il est toujours, qui m'a dit que Fabrice Louer, le maire de Lorient à l'heure actuelle, cherchait à me contacter pour voir si ça pouvait m'intéresser. Je n'ai pas dit oui de suite, c'est quelque chose qui m'effrayait, qui ne m'intéressait pas forcément, aller dans ce milieu-là. C'était pas quelque chose qui m'intéressait, c'est pas un milieu que je connais, et comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime bien faire les choses que je maîtrise et que je connais. Ce milieu-là, je le connaissais pas du tout, j'avais pas d'avis dessus, et donc ça m'a fait un peu peur. Marc m'a dit vas-y, c'est intéressant, tu vas apprendre des choses, et Fabrice a su me convaincre aussi par son discours, par sa façon de voir les choses, par son avis de faire de Lorient ce qu'il est en train d'en faire. Après, je regrette pas du tout, parce que voilà, pour moi, c'est un service rendu au Lorienté. Maintenant, c'est pour ça que je dis que je fais pas de la politique, j'essaye de rendre un peu ce que les Lorientais m'ont donné au quotidien pendant mes années lorientaises au FCL. Donc voilà, moi, l'idée, c'était ça, essayer d'avoir un retour un peu pour eux, un retour sur investissement. Donc du coup, j'y suis allé dans cet état d'esprit là et j'apprends beaucoup de choses encore sur ce milieu et voilà, et mes journées, elles sont bien occupées, ouais.
Donc là, ton rôle, c'est d'être responsable sport, si je dis pas de bêtises, à la mairie de Lorient.
Ouais.
Donc en quoi ça consiste exactement? Qu'est-ce que tu fais?
De tout ce qui est tout ce qui est en rapport au sport. Alors ça peut être de la relation avec l'association sportive, qui passe le plus clair de mon temps, à l'investissement sur les différents équipements sportifs orientés, ce qui passe aussi beaucoup de temps. Après, la création d'événements sportifs, tout ce qui est vie publique, c'est un peu moins ma tasse de thé, parce que voilà, je laisse ça aux autres adjoints, mais voilà, en gros, moi, ma relation avec ça, c'est tout ce qui a rapport au sport, en gros, et tous les sports.
Tu restes encore un peu étroitement lié au FC Lorient avec le projet de la nouvelle tribune. Est-ce que tu peux en dire deux mots?
Oui, forcément, ça a remis du lien avec le FCL, parce que c'est vrai que pendant un petit moment, moi, j'étais plus trop en contact avec eux. C'est un beau projet que Fabrice défend, qu'on défend, qui pour moi a du sens, parce que ça permet d'avoir un équipement sportif lorienté qui sera ouvert sans doute à toute la population. Un stade de foot, par vocation, n'est utilisé qu'une fois toutes les deux semaines à peu près. Et l'intérêt de cette nouvelle tribune, c'est d'en faire un accueil pour tout le milieu lorienté sportif, et scolaire, parce qu'il est possible qu'il y ait des scolaires qui vont à l'intérieur. Mais voilà, en tout cas, c'est un super projet. Qui moi m'a passionné, m'a intéressé, et puis on touche à toutes les strates de la population, quoi, et toutes les strates d'une cité, quoi, d'une ville. Donc et puis il y avait des gros budgets aussi, il faut pas se cacher, c'est vraiment des gros budgets pour la ville, pour les Lorientais. Donc voilà, ça fait que la tribune du Moustoir, c'est l'un des projets phares, c'est le projet phare du mandat de Fabrice.
Et on la verra.
J'espère que vous la verrez, oui. En tout cas, c'est parti pour. Après, les choses se font en temps et en heure. C'est très long. J'ai appris à découvrir la vie administrative et la vie publique. Pour moi, quand on veut quelque chose, quand on est dans le privé, ça va très vite. En une année, on peut arriver à réussir à des beaux projets. Le temps administratif public est très long. C'est ce qui est un peu frustrant parce que voilà, on a l'impression que ça avance pas. Et je pense que beaucoup de l'orientés ont l'impression que ça avance pas. Mais ça avance dans le bon sens. En tout cas, j'espère que ce sera un beau projet. Il est pour ceux qui ont maîtrisé un petit peu les débats politiques qu'on peut avoir autour de ce sujet-là. Il y a plusieurs phases et l'idée c'est d'aller au bout des trois phases. Mais voilà. Il faudra voir si on a la capacité financière, si la ville a la capacité financière d'arriver au bout du projet.
Et je suis un tout petit peu de côté. Rester dans la région lorientaise, c'était une évidence pour toi? Parce qu'on rappelle que tu es toulousain, c'est pour ça que vous ne l'avez pas entendu. Tu n'es pas exactement du golfe du Morbihan. Rentrer dans ta région d'origine, c'était évident de rester dans la région lorientaise?
Au début, non, hein, en étant honnête, franchement. Ouais. Pas quand je suis arrivé, c'était pas la volonté de départ, mais très vite j'ai vu que ici je me plaisais, j'ai commencé à connaître beaucoup de gens dans la ville et autre que le foot, c'est important hein, je trouve pour un footballeur de s'intégrer à la ville et de connaître d'autres gens que les footballeurs qui jouent avec vous au quotidien, je trouve que ça ouvre vraiment et ça devrait être un sujet d'ailleurs, on pourrait en parler, hein. Mais la vie de tous les jours d'un footballeur, ce serait intéressant de les orienter vers autre chose que du football au quotidien. Mais moi, ça m'a permis de durer longtemps parce que j'avais des gens qui étaient à côté, qui ne me parlaient pas tout le temps de foot. J'avais besoin d'un sas, de parler d'autre chose que de football au quotidien. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens et après j'ai aussi rencontré ma femme ici, donc ça a fait aussi que les choses ont été plus faciles pour rester. Et puis c'est quand même une belle région. On est quand même dans une ville qui a beaucoup de qualités et qui nous permet d'avoir beaucoup de loisirs. Moi j'ai découvert la mer en tant que Toulousain. Maintenant j'aurais du mal à vivre ailleurs qu'au bord de la mer, quoi. Donc tout ça a fait que j'ai vite compris que j'allais rester ici.
Est-ce et tu as développé d'autres passions, etc. À part la mer, etc. Enfin, au cours de ces dernières années, peut-être relié aussi au territoire.
J'ai découvert la cornemuse. j'ai découvert le festival. C'est quand même, moi, en tant que Toulousain, c'est quelque chose que j'ai découvert en arrivant ici. Je ne connaissais pas du tout.
Alors, le terme technique, c'est biniou, attention, ouais, je vais te faire taper dessus. Hein.
Ah, ça reste de la cornemuse, quand même. Non, je plaisante. les premiers soins de biniou, quand ils arrivent courant juin, je sens que je commence à avoir un petit manque et je suis content quand le festival arrive, quoi. Non, mais c'est vrai que voilà, ce style de... et puis la ville orientaise, franchement, les gens, ils sont quand même relativement sympas ici. On a un confort de vie, on a un cadre de vie agréable, quoi, donc... Mais non, c'est Toulouse, c'est loin. J'ai encore ma famille là-bas, j'y retournerai toujours. Mais Lorient, c'est quand même maintenant ma ville, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je la considère comme ma ville.
Tu continues à faire du sport? Tu as l'air fit, là, vu de ta webcam. tu continues à t'entretenir, je suppose?
Ouais, je sais, ouais. Vaut mieux.
Mais parce qu'après 35 ans de carrière pro? 35 ans, je dis n'importe quoi. Tu as commencé à... Pardon. Après 35. Ces 35 premières années où tu as fait du sport, on va dire, tu coupes d'un coup, ça doit être assez violent dans la vie d'une personne, non, de couper après, de se retrouver le lendemain, il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas, je peux manger ce que je veux, je peux boire ce que je veux, ça peut vite dégénérer.
J'ai fait ça. J'ai fait ça. Et ça s'est vite ressenti.
Ouais.
J'essaye de faire du sport régulièrement. Après, moi, je suis un passionné de sport, quoi, à la base, j'adore ça. Ouais. Hein. Et ce qui me manque le plus, c'est pas la compétition, là, c'est la préparation physique, tous ces moments-là de début de saison, c'est ça qui me manque le plus. Je trouve que la préparation, c'était ce que j'adorais, quoi. Enfin, la mise en action pour préparer toute une saison, la compétition m'en manque très peu finalement. C'est plus tout ce qui est préparatif, quoi, que j'aime bien. Donc faire du sport tous les jours, ça me va bien.
C'est hyper rare, hein. C'est hyper rare ce discours, parce que je pense pas que ce soit commun à beaucoup de footeux de dire que la préparation, c'est mon dada.
T'entends souvent l'inverse, ouais.
Ouais, clairement. Les mises au vert, ça me casse la tête, la préparation, c'est trop long, moi je veux jouer, etc. Enfin, c'est vrai, c'est...
Non, mais après, j'adorais la compétition et les émotions qu'on a sur un match, sur une victoire, sur un grand événement, ça se remplace pas, quoi. C'est vraiment, on atteint le sport, c'est ça, hein, franchement, le manque, il peut être dans les émotions, dans tout ça, mais la compétition en elle-même, non, ça me manque pas trop. Ouais, j'aimais bien, moi, tout ce qui était préparatif. Mais quand même, sur un match, sur une victoire, on a des émotions que c'est là où c'est difficile après de redescendre quand t'es joueur. C'est ça qui est vachement truc, c'est que la vie elle paraît des fois un peu lisse, quoi. J'entends certains moments où des dépressions peuvent arriver post carrière parce que réussir à avoir les émotions qu'on a eues pendant nos 20 premières années, c'est compliqué quand même, hein. Enfin voilà, il suffit que dans l'actualité fait que l'actualité soit triste. C'est compliqué quand même de retrouver ces émotions de joie, quoi.
Vu qu'on parle un petit peu de dépression, etc., il y a un sujet qu'on aime bien aborder, c'est aussi le sujet du mental des sportifs. Dans une carrière de footballeur, on ne peut pas imaginer... Alors, vu de l'extérieur, footeux, c'est le meilleur métier du monde et on aurait tous voulu faire ça, etc. Mais bon, une fois qu'on est dedans, finalement, c'est votre train-train et c'est entraînement, machin, ceci, cela. Comment tu gères le risque de fatigue mentale, d'usure mentale qui peut apparaître au cours d'une saison, au cours d'une carrière? Comment est-ce que, en tant que sportif pro, on gère ça? Est-ce que tu penses que ça a évolué depuis ton époque?
Non, je crois pas que ça ait évolué des masses.
C'est pas forcément bon signe.
Ouais, non. Après, la pression aussi, ça aide à faire des performances. C'est pas que négatif, la pression. Quand tu sais bien la gérer, c'est quelque chose qui peut te faire monter très haut dans les niveaux aussi. Voilà, c'est de la concentration, ça éveille ton esprit. La pression, c'est pas que néfaste. C'est néfaste quand tu sais pas la gérer et quand elle prend le pas sur toutes les autres émotions, quoi. Là, oui, c'est pas intéressant. La meilleure façon pour moi de gérer une carrière et la pression qu'il peut y avoir sur les matchs, c'est de s'intéresser à autre chose. Je l'ai dit tout à l'heure. Je reste convaincu que ceux qui n'arrivent pas à le gérer, c'est ceux qui pensent et vivent football 24 heures sur 24. Et c'est le cas de beaucoup. Et pour moi, c'est dangereux. Et je trouve que c'est pas très productif que de faire. Moi, les centres de formation, j'adore. Hein. C'est un bel outil. Hein. Mais je trouve que nos jeunes, ils sont enfermés dans un carcan où ils pensent, ils vivent football 24 heures sur 24. Ils n'ont pas l'ouverture d'esprit d'aller voir ce qui se passe ailleurs, dans d'autres disciplines, dans d'autres sujets d'actualité. On est quand même, le problème du foot, c'est qu'on est quand même un peu enfermé dans ce qu'on fait tous les jours, quoi, dans le football. Moi, quand il a fallu sortir de ce milieu-là, je me suis vite rendu compte que c'était difficile, quoi. Enfin, c'est pas facile de sortir du foot, quoi, parce que voilà, de par les émotions et de par on est quand même des assistés, on nous dit ce qu'il faut manger tous les jours, et pour les jeunes maintenant c'est le cas, et même pour les joueurs de maintenant c'est la même chose, quoi. On leur dit à quelle heure il faut qu'ils mangent, ce qu'ils doivent manger, ils se passent de plus en plus de temps au centre d'entraînement, ils sont de moins d'ouverture aux autres. C'est une façon de faire, et c'est une notion de travail qui est aussi à prendre en compte, mais je trouve que c'est quand même un peu dangereux, quoi.
On voit quand même aussi un peu plus d'ouverture d'esprit, notamment chez les gardiens professionnels. Depuis quelques années, on voit des groupes de gardiens aller faire des activités d'autres sports, par exemple l'escrime. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'aller transposer des techniques de d'autres sports pour améliorer sa technique de gardien?
Ouais, je trouve que c'est quelque chose de très encourageant. Je trouve que c'est une bonne démarche. Je regrette par contre de ne pas l'avoir fait, par exemple. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans les autres sports. Tu vois, la boxe, la préparation physique de la boxe, je trouve, c'est démentiel, quoi. Enfin, ils arrivent à aller dans des sphères que nous, footeux, on est incapables d'aller, quoi. Il y a plein de choses à apprendre. Le tennis, c'est bon aussi. Je pense que pour un gardien, en tout cas, je trouve qu'il y avait les mêmes déplacements. Je me rends compte que Voilà, le padel, ça peut être aussi la même chose. En fait, je pense qu'il y a dans tous les sports, il y a quelque chose d'intéressant à apprendre. Et en plus, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça permet, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, d'avoir une ouverture d'esprit et d'aller se confronter à d'autres personnes, quoi, et de ne pas parler que de football tous les jours.
On avait prévenu nos auditeurs, évidemment, que tu venais nous voir, et que tu venais les voir. Du coup, on leur avait demandé s'ils avaient des questions. Alors, il y a plein de questions qu'on a déjà eu l'occasion de te poser, donc on remercie évidemment tous ceux qui ont participé. Il y en a une de Aviscos qui nous dit... Bon, déjà, il te remercie pour toutes ces saisons, et il garde en tête la saison 2007-2008 où tu avais un niveau incroyable. Donc ça, c'est lui qui te le dit, il est gentil. Il te demande, qu'est-ce qui t'a manqué selon toi pour voir plus haut? Alors, quand il dit plus haut, lui, pour lui, c'est un club qui joue Coupe d'Europe, c'est éventuellement une sélection. Je sais pas si tu as déjà eu des pré-convocations en équipe de France?
Non.
Non. Qu'est-ce qui t'a manqué, du coup, pour toi, selon toi, hein, pour arriver à ce niveau-là?
Ça nous d'être un peu meilleur, déjà. Je pense que si j'avais été indiscutable, j'aurais été sélectionné, mais ça n'était pas. Moi, sérieusement, je pense que j'ai pas su me vendre peut-être médiatiquement. Je dirais que.
Tu penses que ça a joué?
Je pense, ouais. Je pense que ça a pu avoir un petit impact. Alors après, j'étais pas assez bon pour que ça joue que ça, quoi. Mais je pense qu'à un moment donné, il y avait eu un moment où si je m'étais vendu un petit peu plus, où les médias m'auraient vendu un petit peu plus, ça aurait pu avoir un peu plus d'impact. Voilà. Donc, j'ai pas de regret de ne pas avoir été sélectionné. Par contre, je le dis, hein, j'ai pas de regret sur ça. Je sais pas. D'être meilleur, sans doute, c'est tout.
Et c'est la même chose pour rejoindre un club qui joue, top 5, top 6 en D1?
Ouais, après c'est pareil, il aurait fallu, je souhaite y aller aussi, j'étais pas prêt à tous les sacrifices pour aller dans un club qui jouait les 5 premières places du championnat, j'avais pas envie de me retrouver dans un club, déjà on me l'a pas proposé, c'est déjà la première chose, mais en plus je pense pas que j'avais envie d'aller dans un club où j'allais pas avoir la qualité de jeu que je pouvais avoir à Lorient, les envies de ce que j'ai dit au début, tous les ans, voilà, j'avais cette garantie ici à Lorient d'avoir cette base là, et c'est pour moi c'était sans doute plus important que de jouer dans une équipe supérieure en termes de niveau.
Moi je retiens quelque chose quand même, si on met en perspective tout ce que tu as pu dire, surtout sur toute ta carrière et le début de ta carrière, j'ai la sensation quand même que tu as appris les fondamentaux sur 2, 3, 4 années et que du coup tu t'es, je dirais pas reposé sur ça, mais en tout cas ça a été ta ligne directrice, je te cite. Est-ce que si on regarde, si on fait une petite rétrospective, est-ce qu'il t'a pas manqué peut-être aussi un mentor ou un guide, quelqu'un sur lequel tu peux apprendre autre chose? Est-ce que c'est peut-être pas ça qui a manqué au FCL pour peut-être te faire passer un cap, puisque j'ai l'impression que tu reviens souvent en arrière pour te dire que t'as appris tout très vite, très tôt, et qu'après, bah, finalement, c'est l'âge qui a fait son œuvre, mais pas forcément de déclic. Et finalement, et désolé pour la question très longue, je suis un peu coutumier du fait, mais globalement, on voit chez certains joueurs de champ que certains entraîneurs arrivent à leur ouvrir un peu l'esprit, le jeu, voir le foot autrement. Est-ce que du coup, c'est pas ça aussi la différence entre gardien de but et joueur de champ, ce côté très personnel, très internalisé?
Je me suis, là où je te rejoins peut-être, c'est que ma formation et mes progrès en tant que technique, en tout cas du rôle de gardien, se sont sans doute limités à mes années toulousaines et mes années monégasques. Je te le concède. Après, tu peux avoir un mentor, un autre gardien qui te fait progresser parce que tu l'as au quotidien avec toi, et un entraîneur aussi qui te fait aussi progresser au quotidien. C'est peut-être pas le cas à Lorient, donc voilà, je me suis aussi peut-être reposé sur ce que je savais faire, en tout cas sur ce que j'avais appris et ce qu'on me donnait à faire au quotidien. Et en tout cas, je te rejoins, oui, peut-être qu'à un moment donné, si j'avais fait peut-être 3-4 ans avec Jean-Luc et Tori, par exemple, peut-être que je serais allé plus haut. Oui, c'est peut-être possible. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais...
Ah si, si, carrément, complètement.
Oui, c'est possible, oui. Oui, je suis assez d'accord avec toi sur ce sujet-là, ouais.
Ça fait une petite heure et demie, je pense, qu'on est ensemble, ou un petit peu moins d'ailleurs, une petite heure et quart. Les gars, vous avez d'autres questions pour Fabien ?
Moi, j'ai une dernière.
Vas-y.
Mais vraiment, c'est vraiment une question un peu futile, mais je me rappelle la première année où on monte en Ligue 1, quasiment à chaque match, tu avais un maillot différent. Est-ce que c'était un choix de ta part ou vraiment un choix de l'équipementier ?
Non, c'était un choix de ma part. Je m'amusais, j'aimais bien.
Je me rappelle, il y a un maillot que t'as, c'est un maillot un peu style Argentine, bleu et blanc. Celui-là, il m'avait bien marqué.
En tout cas, c'était mes références. J'aimais bien l'Argentine, j'aimais bien le Barça. Il y en avait un aussi qui était Grenat oui. Bleu aussi. Voilà, c'était un peu des clins d'œil, je m'amusais. Alors après, c'était vite compliqué parce que les arbitres nous interdisaient d'avoir telle ou telle couleur de short, de trucs. Donc après, on s'est vite rendu compte que c'était compliqué à faire. Mais ouais. Après, j'ai joué avec mon rose assez régulièrement.
Le rose, c'est le rose Fabien Audard. Hein. On dit le rose Audard d'ailleurs.
Le rose de la ville de Toulouse, quoi. Donc,
ah oui, non, mais c'est clair.
C'est aussi une petite référence à ce que j'étais aussi, quoi. Donc c'était oui. Bah du coup ouais, non, je m'amusais un petit peu, j'essayais de m'amuser un petit peu avec les maillots quoi, en tout cas avoir des choses un peu pas originales mais en tout cas qui me représentaient.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Fabien?
Pour
c'est pas la question la plus dure normalement.
Bon, que ça continue comme ça, enfin moi je suis heureux dans ma vie, je prends du plaisir dans ce que je fais, je suis en bonne santé. Voilà, après peut-être un accomplissement professionnel intéressant, enfin voilà, c'est de trouver une voie professionnelle qui m'intéresse, où j'y trouve du plaisir autant que dans le foot, en tout cas essayer d'approcher ce que j'ai fait dans le foot quoi, voilà.
Toujours dans le coin sur l'Orient.
Il y a des grandes chances tellement ouais. à part si ma vie professionnelle m'amène ailleurs par obligation, je dirais, plus que par choix. Mais je me vois pas partir de Lorient, pas maintenant en tout cas.
Et puis la dernière question, le FC Lorient, ça se maintient cette année?
Je le souhaite vraiment vivement.
Faut se mouiller là.
Faut se mouiller.
Ouais. En pronostic. Ouais.
Je sens que je suis pas très bon en pronostic.
Non plus.
Donc je vais dire qu'ils descendent, comme ça leur laissera une
chance. Aïe aïe aïe.
T'as entendu la fin, j'ai dit ça parce que je suis pas bon en pronostic.
Non, mais donc, nous, on va faire évidemment capture d'écran. Titre, Fabien Audard prévoit le C Lorient en Ligue 2.
tribune arrêtée, Lorient descend, tu vois, le truc horrible, tu sais.
Non, ça n'a pas de rapport en plus l'un avec l'autre. Non, j'étais franchement, honnêtement, j'étais très inquiet au mois de janvier.
Je pense qu'on l'était tous, ouais.
Je voyais pas d'évolution en plus dans le jeu, honnêtement.
Non,
on va dire que c'est les résultats qui font que j'ai pas vu les deux derniers matchs, donc je vais mettre de la réserve, mais ça m'a l'air un peu mieux, mais après c'est fragile hein, et il va encore en laisser deux derrière, donc trois. Donc ça reste fragile, ça va être chaud, de toute façon je pense que ça va se jouer dans les derniers matchs. J'espère sincèrement qu'ils vont se maintenir quand même.
Ben on l'espère tous. Merci beaucoup Fabien Audard d'être venu nous voir.
Avec plaisir. Merci de m'avoir fait reparler football, ça faisait bien longtemps.
Eh ben, y a pas de souci. Puis si tu veux revenir, la porte est toujours ouverte. Hein.
Avec plaisir.
Merci Raph, Pierrot, Lucas d'avoir été avec moi pour poser toutes vos questions à Fabien. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, pouce vert, pouce rouge, vous abonner, etc. Tout ça sur les réseaux sociaux. Vous nous suivez sur Insta, sur Twitter et on se retrouve très vite dans la taverne. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.